RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Après le 15 de France le mois dernier, le Covid s'est invité ces dernières semaines au sein des clubs du top 14. Ce week-end, ce sont 4 matchs supplémentaires qui ont dû être reportés. Ils viennent s'ajouter aux 4 de la semaine dernière et ces matchs, on ne sait plus vraiment où les caser entre phase finale du championnat, de la Coupe d'Europe, plus la tournée en Australie. Un véritable casse-tête qui fait craindre une fin de saison en eau de boudin. On vous dit tout dans un instant. Les dirigeants de rugby français, qui, il faut bien le reconnaître, ne sont jamais en manque d'une idée folklorique capable d'arranger leur bidon. Dernière proposition en date, passer de 14 à 15 la saison prochaine en top 14, qui deviendrait donc le top 15, et de 16 à 17 en Pro D2, comme ça plus de relégation, mais en revanche on continue de monter. Proposition qui a de fortes chances d'aboutir dans la semaine, alors décision indispensable ou catastrophique, la mêlée des poteaux promet d'être agitée. Et le rugby dans tout ça, me direz-vous? Ben oui, il y a quand même eu quelques matchs, dont le choc entre Toulouse et le Racing, marqué une nouvelle fois par la prestation de grande classe d'Antoine Dupont, le demi-mêlé toulousain qui aurait mérité un énième titre de frelon du week-end, mais nous avons choisi de l'accorder à l'un de ses équipiers, Johan Huger, victime d'une grave blessure qui va sans doute mettre un terme à sa carrière, comme ça, au détour d'un match sans public, à une semaine d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Tout ça est bien triste. La Coupe d'Europe et ses demi-finales, on en parlera aussi avec toute l'équipe des poteaux, emmenée par son capitaine Denis Charvet, toujours en tournée dans le Sud, ça fait 6 mois qu'il est parti, mais il est fidèle au poste. Salut Denis!
Je suis un agent très spécial, j'essaie de recruter des joueurs pour les Barbarians, mais c'est compliqué en ce moment.
Voilà. Il doit être très affûté.
C'est ce qui a marqué sur l'attestation, recruteur pour les Barbarians. Ça passe auprès de la police, c'est très bien ça.
Tout à fait, ça passe.
Enquête interne.
Pour l'épauler, deux immenses gratteurs, plus de micros que de ballons, Jeff Patureau et Wilfried Templier. Salut les gars.
Bonjour.
Salut, salut. Je voudrais une photo torse nu de Denis, s'il vous plaît, moi, pour voir un peu là, si
le petit voyage en trop, 2 kilos.
Que deux? Oh, bah ça va, ouais. Tu t'en sors. Ah, deux, d'habitude, deux. Tu reviens avec 7 ou 8 quand même. Hein.
Arrête, tu es sur la balance quand même.
Ah, tu parles pour toi là.
Et puis notre confrère de Midi Olympique aujourd'hui, Léo Faure, est dans la place. Salut Léo.
Salut à tous. Denis est toujours affûté quand même.
Ah, ouais, merci Léo. Voilà.
Oh, allez, je bosse.
Ah, non, mais Léo, c'est pas comme ça que tu fais ton entrée dans les poteaux, non? Attends.
Bisutage en plus, Léo.
Léo était barbarien. Je vais me faire inviter sur le bassin d'Arcachon cet été.
Ah, d'accord, on comprend mieux. Allez, messieurs, tout de suite le coup d'envoi. On perd pas de temps. Une bonne petite mêlée pour débuter. Ça va chauffer. Je vous le disais dans le sommaire, la situation du rugby pro français est grave, pas encore désespérée, mais ça menace. Alors avec toi Jeff, on va essayer d'y voir plus clair. Pour cause de Covid,
bon 4 courage.
Nouveaux matchs ont donc dû être reportés ce week-end, qui viennent s'ajouter aux 4 de la semaine dernière. Ça fait 8, si je compte bien, à recaser, et ça va pas être simple au vu du calendrier serré et des échéances importantes qui s'annoncent. La situation est-elle encore sous contrôle, mon cher Jeff?
Ouais, sous contrôle, si, les deux. Bon, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des matchs qui ont été recasés à partir de jeudi. Jeudi, 22e journée, match en retard, Bayonne-Castres. Okay. Samedi 1er mai, il y a un match de la 21e journée, Racing Stade Français, et deux matchs de la 22e journée, Toulon, Agen et Clermont-Brive. Mardi 11 mai, potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que ça va dépendre du parcours européen, des trois clubs qui sont encore engagés. Il pourrait y avoir Brive-La Rochelle, Agen-Union Bordeaux-Bègles et Montpellier-Toulon. En semaine, le mardi, c'est important, puisque normalement, on ne joue pas en semaine, il faut un certain temps pour récupérer. Reste à caler encore Union Bordeaux-Bègles contre Montpellier. Le match va avoir lieu vendredi, décalé à dimanche. Finalement, reporté de date ultérieure. Et ça, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va avoir lieu. Par exemple, pour Montpellier, ça fera 6 matchs à disputer en 4 semaines d'ici la fin de la saison régulière. Pour l'Union Bordeaux-Bègles, c'était un vrai casse-tête aussi.
Ouais, alors pour le moment, ça passe encore, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux cas de Covid dans les semaines à venir. Faute de quoi, on pourrait en venir à une solution. Alors là, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça ce week-end. La péréquation, qu'est-ce donc que ce joli mot barbare, mon cher?
Ouais, c'est un peu barbare, c'est ça. Et pourtant, c'est un simple calcul arithmétique en fonction de vos performances de la saison. Ça va calculer le nombre de points qu'une équipe mérite au regard de ses résultats des derniers mois. Par exemple, si un match en retard ne peut pas avoir lieu d'ici la fin de la saison régulière début juin, c'est cette moyenne qui va compter. Une équipe qui prend en moyenne 3 points à domicile depuis le début de saison se verra attribuer 3 points pour un match en retard qui ne pourrait pas avoir lieu, qu'elle jouerait à la maison. Et en face, l'équipe adverse, si vous me suivez, bon, tiens, je comprends que vous ayez arrêté avant. En face, l'équipe adverse, elle recevra sa moyenne de points qu'elle prend à l'extérieur depuis le début de saison, j'en sais rien. Si, regardez, Agen, c'est facile, il prendrait 0 points.
Ouais. Oui, mais enfin, t'as une moyenne, tu vas pas faire un. Si tu fais 1,5 points,
et bah,
ce sera ça.
Montpellier pourrait se qualifier, ce qui serait incroyable.
Ouais, ils sont loin quand même.
Ça va être compliqué là quand même.
Non, mais t'as... Et en tant que t'as pas regardé les chiffres,
ça fait un moment qu'il a arrêté les maths. Hein.
ce qu'on a dit l'autre jour, mais bon, Moscato Show alors.
Ah oui, mais c'est dommage
que chez nous.
Ah oui, non mais là t'es pas au même niveau, Denis, là, attends. C'est entre les poteaux ici là.
Excusez-moi. Et ce système, a été mis en place en fin de saison dernière, si je me trompe pas, parce qu'il y avait des matchs en retard en Pro D2 qui n'avaient pas été joués pour que le nombre des matchs soit le même pour tout le monde. Bah moi, j'arrive plus à parler français, je comprends rien en fait.
Bon, compliqué quand même tout ça, hein, Denis.
Compliqué,
je sais que tu en perds ton latin et tu en perds tes mathématiques, mais bon.
Moi, je redis ce que je pense. Il faut absolument finir la saison. Ce serait dramatique de ne pas avoir de champion encore cette année, de faire une saison blanche. Donc, il va falloir trouver la moins mauvaise solution. C'est laquelle, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais celle-là me semble une solution parmi d'autres. Je pense qu'il y a aussi la solution de descente, qu'une descente au lieu de deux, c'est ça,
ça, ouais, on va en reparler.
On va en parler, mais là aussi, il va falloir suivre.
Surtout, messieurs, la péréquation, c'est ce sur quoi les présidents se sont décidés depuis le début. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Ils l'ont voté,
c'est vrai que maintenant, la saison est tellement particulière. Oui, ce serait quelque part toujours un peu faussé pour certains, pour d'autres et tout. Mais comment on fait autrement? Comment on fait? Ils ont décidé ça. Donc maintenant, on peut crier au loup, mais ils sont partis là-dessus. Donc,
de toute façon, elle est faussée quelque part du fait que les matchs sont reportés. On sait très bien que quelque part, elle est faussée la saison.
Donc, est-ce qu'elle est encore équitable? C'est ça la vraie question.
Est-ce qu'elle est équitable? Ça, c'est autre chose.
Bon. Ce qui est sûr, Denis, c'est que tu disais qu'il faudrait que la saison se termine. Normalement, enfin là maintenant, elle se terminera quoi qu'il arrive, puisqu'ils avaient voté qu'à partir de 20 matchs joués, la saison serait. Voilà, il y aura un classement avec péréquation si besoin, et tout le monde a joué 20 matchs. Donc on ira au bout. Voilà.
Après, donc là, il y a certitude d'aller au bout, on est d'accord.
Ouais. On s'est pareil en Pro D2, c'était 24 matchs. Ils étaient décidés sur 24 matchs en Pro D2.
D'accord, donc là on pourrait avoir un champion, même s'il n'y a pas de phase finale, imaginons le pire.
Enfin, il y aura des phases finales, il y aura un classement, peut-être quand même... avec péréquation, mais il y aura des phases finales.
Il y aura des phases finales. Alors, et que se passerait-il s'il y a un club justement qualifié pour les phases finales, imaginez pour les demi-finales, se retrouve avec 10 cas de Covid du jour au lendemain? Qu'est-ce qu'on fait là? On prend l'équipe du dessous, l'équipe qui a été éliminée, Jeff?
Bah là, c'est la NASA aussi, c'est pareil. Tout est calculé évidemment en vie. C'est-à-dire qu'on prendrait l'équipe la mieux classée qui n'a pas été qualifiée.
D'accord.
Je crois quand même c'est plus subtil, c'est sur des cas de Covid à plus de 48
c'est
heures.
Ça, c'est exactement, t'as raison.
C'est l'équipe la moins bien classée en dessous qui est qualifiée. Et dans les dernières 48 heures avant, par exemple, un barrage, s'il y a des cas de Covid qui apparaissent, c'est match perdu sur tapis vert et l'adversaire qualifié.
Bon, et pourquoi on ne mettrait pas tout ce petit monde sous cloche là, en organisant des phases finales, comme ça s'est fait en NBA?
Il parlait justement des 8 premiers, c'est ça? J'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai.
Et on fait tout ça comme l'équipe de France?
Ouais, c'est ça, on n'a pas réussi à mettre personne sous cloche pendant le tournoi, ça va être compliqué pour le
club. Le Covid manager pour organiser tout ça, vous allez voir, ça va.
Ça serait pas une mauvaise idée de
ça peut être une bonne idée. Ça peut être
on va pas tout changer maintenant, messieurs,
dans les phases finales.
Je crois que c'est évoqué pour les demi-finales qui sont en lieu unique, de faire une
à Lille,
Oui, bah ça, les mettre sous cloche, d'accord. Renforcer ce protocole encore plus. Les isoler, ils sont tous ensemble, comme tu l'as dit en NBA, là, au même endroit. Donc oui, si c'est à Lille, pourquoi pas? Nous aussi d'ailleurs, on fait pareil.
Ah, t'as l'air enchanté.
Si les restos sont réouverts.
À Lille en plein mois de juin, ça va être sympa. Tu vas être très très content.
C'est super cher. Lille.
Ah, bah, c'est magnifique. Non mais en plus c'est très sympa.
Tu auras le même corps que Denis après.
Plus blanc. Les dirigeants du rugby pro français, donc en pleine réflexion pour faire aboutir le championnat, on l'a compris, c'est la priorité absolue. Et comme ils étaient en train de réfléchir, ils en ont profité pour avoir une autre idée. Bien farfelue celle-ci, celle donc de transformer le top 14 en top 15 pour la saison prochaine, histoire d'avoir encore plus de matchs à recaser l'an prochain, plus de doublons, plus de blessures pour des joueurs qui sont déjà soumis aux cadences infernales. Jeff, d'où sort cette idée et est-ce qu'elle a une chance d'aboutir?
Ça fait quelques semaines, plutôt quelques jours, que certains évoquent ça en coulisses, mais c'est surtout la semaine dernière lors de la réunion des présidents de mercredi. Il faut vous dire que la réunion des présidents, c'est long, c'est bruyant, ça parle en tous les sens et ça a plein d'idées. C'était un peu le principe la semaine dernière et il y a plusieurs présidents qui ont appelé à un gel ou une réduction des relégations et à une modification tout simplement des formats de compétition pour la saison prochaine. Avec la mise en place d'un top 15, combien de clubs en Pro D2 il pourrait y avoir des montées en national? Ça ferait 18 clubs, mais vu qu'il y en a un de plus qui monte, ça ferait 17 formations en Pro D2. Dans ces conditions, la 13e place, elle serait alors plus soumise à un match de barrage contre le finaliste malheureux de la Pro D2. Ce serait Agen, qui n'a pas gagné la moindre rencontre, qui a 2 points en classement, qui pourrait jouer son maintien. Et ça serait un peu lunaire quand même, après une telle saison, contre le finaliste malheureux de la Pro D2. Et tous les clubs de l'élite pourraient alors se maintenir. Ça ferait une formation, une élite avec 15 équipes la saison prochaine. Pourquoi une telle possibilité? Au nom de l'équité sportive et financière, voilà le discours. On a interrogé la semaine dernière, Julien Landry a interrogé Philippe Saint-André. On écoute l'avis du manager de Montpellier.
Le championnat anglais, ils ont été pragmatiques, ils ont décidé qu'il n'y aura pas de descente et au contraire, au lieu d'un top 12, je pense qu'ils vont passer à un top 14. Et il faut qu'il y ait une équité sportive. Si jamais nous, on doit jouer 6 matchs en 3 semaines pour rester en top 14, après je pense qu'il y a la Ligue nationale de rugby, un comité directeur qui sont en train de plancher sur plusieurs solutions. Faire pourquoi pas un top 15 sur une saison. C'est un championnat qui est pas équilibré parce qu'il y a des équipes qui ont été plus impactées que d'autres.
C'est une proposition, un projet qui n'a pas été franchement bien accueilli depuis qu'on a sorti l'info sur RMC Sport et Paris pour le Midi Olympique hier. Il sera évoqué dans les heures à venir par le comité directeur de la Ligue qui aura lieu demain. On rappelle juste que lorsque René Buscatel et le nouveau comité directeur ont pris leurs fonctions, ils avaient confirmé que le format ne changeait pas, mais depuis, certains présidents passent à l'offensive.
Voilà, des idées, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est vraiment le fort des dirigeants du rugby français. Léo,
ah bon
Léo, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que ça va passer et est-ce que ce ne serait pas une catastrophe pour le rugby pro?
Non, mais sur le fond, déjà, en termes d'image, c'est vrai qu'il y a un côté un peu ridicule à 4, 5 ou 6 journées, suivant les clubs, leur avancement au championnat, de modifier la formule. On a quand même l'impression que c'est fait sur mesure pour sauver des clubs qui bizarrement ont pris des fonctions à la LNR. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai du mal à croire que ça aboutisse très franchement. Mm-hmm. La simple raison, c'est quand on discute un petit peu, et je sais que Jeff a dû le faire et Wilfried aussi un peu aujourd'hui, mais il faudrait qu'il y ait unanimité des 30 présidents. Mm. Puisque un seul président, un président seul qui est contre cette réforme, s'il porte l'affaire en juridique, il gagnera à tous les coups. Donc je vois pas comment ça peut aboutir très franchement. On a identifié à peu près les clubs qui poussent pour cette formule.
Tous ceux qui sont menacés, quoi, en gros.
Bah, les trois derniers du top 14, ouais. Notamment Bayonne, Agen, Pau. Ça ne ferme pas la porte à deux montées en Pro D2, donc le haut de tableau de Pro D2 n'a rien contre. Et le bas de tableau de Pro D2 est évidemment favorable parce que ça maintient tout le monde. Donc c'est plus de l'opportunisme qu'autre chose, mais je le vois pas aboutir. Je vois pas comment ils peuvent aboutir là-dessus. Au-delà, il y a le juridique, et puis même en termes d'image, c'est ridicule, franchement.
Mm-hmm. Messieurs,
ça fait beaucoup parler, en tout cas.
C'est du bricolage, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule que de changer une formule comme ça en cours de route. Ou alors tu l'adoptes.
C'est plus qu'en cours de route, Denis. Ouais, c'est vers la fin, en plus. Quoi.
Oui, non, je veux dire, par là, c'est que si tu dois le faire un jour, ben réfléchis, et puis si tu fais l'unanimité, tu la changes. Mais là, c'est pas l'actualité.
Ouais, 15 en plus, c'est un chiffre impair, donc il y aura un club.
Après, il y a pas mal de problèmes financiers. Vous avez des droits télé à partager avec plus grand nombre de clubs. Il y a un diffuseur. Est-ce qu'il va être ravi, le diffuseur, aussi? Est-ce que les joueurs vont être ravis aussi de jouer plus de matchs? Est-ce que Proval, qui représente les joueurs, a un avis là-dessus? On l'a pas entendu, pareil.
Est-ce que la FFR serait content d'avoir un doublon de plus, donc des difficultés dans ses négociations avec les LNR aussi? Mmh. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, ça paraît quand même difficile à mener au bout.
Ouais, ça apparaît effectivement compliqué. Suite au prochain épisode, on le sait, les scénaristes du rugby français ne sont jamais à court de bonnes ou de mauvaises idées pour faire évoluer la situation, les spin doctors du rugby français. Pour nous remonter le moral, sachez qu'il y a quand même eu 3 matchs de top 14 ce week-end qui ont vu les succès du Stade français contre Pau, du Loup, vainqueur de Clermont, et puis la très belle performance du Stade toulousain, vainqueur du Racing 34-16 avec une fois encore un étonnant Antoine Dupont, auteur de 4 franchissements et d'un essai qui porte son total à 14, toutes compètes confondues depuis le début de la saison. Il est tout simplement énorme. Pourtant, le succès toulousain a été entaché d'une très mauvaise nouvelle, celle de la blessure de Johan Huget, à qui on a décidé de décerner l'Oscar du frelon. Non pas de la semaine, non pas pour son match, mais pour l'ensemble de sa carrière.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Oui, parce que la belle carrière rugbystique de Johan Huget, Wilfried, elle s'est peut-être achevée samedi à Ernest Vallon. On soupçonnait une rupture du tendon d'Achille, malheureusement la confirmation est arrivée quelques heures plus tard.
Oui, effectivement, c'est confirmé, rupture du tendon d'Achille de la jambe droite, opéré dans la foulée, Johan Huget à la clinique Medipôle de Toulouse, après cette maudite, on va dire, 35e minute de ce match Toulouse-Racing, où son corps a lâché, lui qui avait prévu d'arrêter sa carrière, il pouvait plus justement supporter ses douleurs d'après-match au tendon, il fallait plusieurs jours pour qu'il récupère, et voilà, il y a eu une chape de plomb, franchement, samedi soir, Ernest Vallon, Maxime Médard, son compère au stade toulousain, mais aussi en équipe de France, a passé, on a image en tête, a passé de longues minutes un genou à terre à ses côtés pour le réconforter. Et après le match, en conférence de presse, les mots avaient du mal à sortir. Écoutez-le, il était au bord des larmes.
Ouais, c'est terrible. Donc il n'y a pas de. C'est terrible. Parce que déjà, quand tu es jeune et quand tu as une blessure, c'est compliqué. Mais quand tu es plus sur la fin de carrière, la blessure, c'est un peu ça. C'est une hantise. Donc voilà. On est assez conscients tous les deux, je pense qu'on a passé des années ensemble à jouer, à batailler, que ce soit pour le stade ou pour l'équipe de France. Et de voir cette image-là, c'est terrible. Bien sûr qu'il y a des choses quand même qui sont plus graves dans la vie, mais quand tu vois ton pote par terre, c'est compliqué.
Voilà, Johan Huger, c'est 15 saisons au plus haut niveau à Toulouse, où il était formé, puis ensuite à Agen, Bayonne, de nouveau au Stade Toulousain. Il revient en 2012 hein, au Stade Toulousain. Il soulève le bouclier de Brennus en 2019. Il marque même deux essais, souvenez-vous, en finale face à Clermont. Un cadre des Bleus aussi. De quoi, comme le dit son jeune coéquipier Mathis Lebel, être respecté dans le vestiaire, déjà regretté.
Il y a des chances que la saison soit finie pour lui, la carrière aussi. Je pense qu'on perd un membre fort de l'équipe, un membre fort du vestiaire, quelqu'un qui, comme il le revendique souvent, qui a jamais lâché, qui a toujours poussé pour ses coéquipiers. Lui, il a toujours été à fond et je pense que ça va faire du mal. Et je suis très déçu pour lui, surtout de finir sa carrière sur une blessure. Je suis vraiment très très peiné pour lui. Et après sortir comme ça, il n'y a pas le public, on sort sur une blessure pour finir sa carrière, et une carrière qui a été mémorable, je trouve que c'est pas une bonne justice pour lui.
Ouais. Pas une bonne justice pour un joueur qui, Christophe, n'aura pas toujours eu de chance dans sa carrière.
Ouais. Oui, on se souvient évidemment de sa blessure lors de la Coupe du Monde 2015 contre l'Italie. C'était le premier match de l'équipe de France. Il était sorti de la Coupe du Monde. Alors c'est vrai que c'est un joueur un peu paradoxal. Il a une belle carrière, 62 sélections, un titre de champion de France, 107 essais au compteur. Mais il a aussi cette image, Wilfried, de cette génération un peu perdue, cette génération maudite qui n'a pas gagné grand-chose avec le 15 de France.
Bah, un creux de résultat, on a envie de dire, en équipe de France, hein. Il arrive entre 2011 et 2019, quoi. Et puis, il a été parfois la cible des critiques, voire le sarcasme, hein, des réseaux sociaux. Peut-être son style, il est assez chambreur en plus, Johan Huger, sur le terrain, donc certains l'ont pas loupé, mais franchement, il aura souvent tenu son rang en équipe de France. Pas de chance, je te disais, parce qu'il a connu beaucoup de mésaventures. Faut pas oublier, en 2011, il loupe la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande au dernier moment. Trois no-shows, hein, des contrôles inopinés loupés. Il y avait eu ça, ouais. Il y avait une conférence de presse à Marcoussis juste avant le départ en Nouvelle-Zélande. Il n'était pas parti, lui. Bon, tu l'as dit, les croisés, premier match contre l'Italie, alors qu'il revenait. Il était revanchard en Angleterre en 2015, après ce qui s'était passé en 2011. Il était revenu à force de courage, de travail. Et puis, ça a peut-être un peu trop tiré sur le corps, justement. Son corps, lui, il a peut-être fait payer samedi soir, mais l'image était quand même assez terrible.
Denis, quelle image tu garderas de la carrière de Johan? Évidemment, c'est terrible, hein, de voir s'achever une carrière comme ça.
Je crois que c'est Jean-Pierre Rive qui disait, quand on lui posait la question, il dit « Moi, je suis sorti par la porte de l'infirmerie ». C'est son cas aussi. C'est toujours difficile, bien sûr, à accepter. Mais il fait partie, Johan, je crois, de ces joueurs qui aurait mérité une autre carrière internationale, qui fait partie d'une génération qui n'a pas gagné. Et ça, c'est terrible pour un joueur, alors qu'il avait les qualités, il avait vraiment le talent pour inscrire dans son palmarès des grands chelem,
des tournois au moins, ouais, c'est vrai.
Des tournois, et que voilà, il a une traversée du désert, parce que il a été aussi malchanceux. On l'a vu en 2015, cette blessure avant la Coupe du Monde, c'était terrible pour lui. C'est ça, 2015, hein, je ne me trompe pas.
À la Coupe du Monde, oui.
Premier match.
Donc voilà, j'ai toujours une tendresse pour ce joueur, parce qu'il paraît qu'il avait une hygiène de vie incroyable, il était exemplaire. C'était
un peu comme toi, quoi.
Aimé de tout le vestiaire où il est passé. Hein, donc voilà, je crois qu'il n'y a rien à redire.
C'est un mec qui a passé le témoin au Stade Toulousain, hein, comme Médard, justement.
Qui est resté dans la transmission.
Qui avait les poitronneaux, les clairs. Et ils ont le même comportement avec Médard, hein, à l'entraînement, sa chambre, sa branche. Mais c'est eux les chefs de vestiaire et ils passent le témoin. Il y en a d'autres qui le feront après
Tu peux avoir que du respect pour ce genre de joueur. Voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé une meilleure sortie. Si le Stade Toulousain va loin cette année, ça va être encore pire pour lui. Donc,
Il n'a jamais été champion d'Europe, ils sont en demi-finale. Voilà.
Donc là, le meilleur arrivé, voilà, il se blesse au pire moment de la saison.
Vous parliez des stats en équipe de France. J'ai regardé, donc c'est 62 sélections, seulement 29 victoires, 32 défaites, ouais, et un match nul, 47% de victoire. Terrible. Alors que c'est pas un joueur qui manquait de talent, c'est juste que cette génération n'a malheureusement rien gagné. Il serait maintenant...
Et en plus, il n'était même pas là en 2011. Alors
c'est ça qui est terrible, c'est que ses titres en équipe de France, il n'y en a pas en fait, alors que c'est un super joueur.
Bon, Léo, il n'y a pas moyen de lui offrir une sortie un peu plus sympathique quand même à Johan. D'un autre côté, rupture du tendon d'Achille, c'est très long, hein, pour récupérer.
Lui offrir, mais il voulait pas faire une saison de plus, donc lui faire un an de contrat en plus, et je pense pas qu'il en ait envie, que ça soit même dans son intérêt. Si, il se plaignait
déjà de ça, de la dureté.
Ouais, voilà.
Oui, moi je pense que
il avait déjà mal au tendon d'Achille, hein. Il disait
en souffrant depuis le début de la saison. C'est des douleurs récurrentes, Et non, il aura l'hommage qu'il mérite en public, j'imagine, au stade, à la reprise l'an prochain ou des choses comme ça. Ou s'il y a un titre à fêter, il sera évidemment présent. Mais c'est vrai que la sortie, elle est dure pour lui, mais je pense qu'il faut accepter que c'est la sortie.
Ouais. Ouais, juste pour finir là-dessus, tu vois, Christophe, je le revois, moi, après ses croisés au retour avec Zeba Traoré, qui s'occupe du retour des blessés hein, au stade toulousain, dans les marches, dans les tribunes d'Ernest Vallon, là, à faire du physique, là, pam, 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 à monter les marches. Et quand on repense maintenant, avec ses douleurs au tendon et tout, c'est dur, hein, rugbyman de. Enfin, il y a des métiers plus durs, évidemment, mais physiquement, quand vous avez la blessure qui s'en mêle, des choses comme ça, c'est vraiment difficile. Ça se mêle dans l'esprit, après, et vu comme il le disait comme ça, qu'il n'en pouvait plus, il lui fallait 2-3 jours après les matchs pour récupérer, quoi.
Mais là, après.
Que ça se paye comme ça,
ce que tu disais, Wilfried, c'est que c'est un patron du vestiaire à Toulouse. Quand on parlait de quelle image on gardera, je trouve ça assez remarquable la manière dont lui et Max Médard aussi d'ailleurs ont accueilli le changement de génération à Toulouse. La réussite actuelle, ils la doivent. Enfin, ils en portent aussi.
Il reste les tauliers quand même, Médard, oui. Guitoun. Oui.
Mais c'est vrai que souvent, quand il y a des jeunes qui arrivent, une vague de jeunes, et les anciens font un peu la guerre et laissent pas trop la place. Ouais. Et eux ont eu cette intelligence-là de plutôt les accueillir, les mettre dans un. Et comprendre qu'en fait, il fallait que ce changement de génération se fasse.
Mais c'est un peu le modèle de Toulouse, si je dis pas de bêtises, de prendre des anciens pour encadrer. Quand vous voyez un mec
c'est
comme
ça, oui, mais
comme
en
Keno,
plus, tu dis, c'est une mise à l'épreuve quand même, hein, des anciens sur le terrain, en dehors du terrain. Ça lâche pas des choses. Garbajosa était comme ça quand il était joueur. Il y a eu Poitronneau et Claire et Poitronneau en ont chié entre guillemets avec les Garba et compagnie et ils l'ont fait ensuite avec les Médard, les UG et ces mecs là le font avec d'autres. Alors tu l'as dit peut-être plus intelligemment parce qu'en 2017 c'était une fin de génération et la jeunesse a pris le pouvoir après à Toulouse, mais ils sont très importants dans le fonctionnement de l'équipe.
C'est un peu comme ça que ça se passe aussi à RMC, hein, Denis, on les laisse pas rentrer les petits jeunes quand même, on les teste hein, quand même. Hein.
Ouais, ils rentrent mais ils ressortent vite. faites gaffe à vos tendons alors.
Johan UG qui tout comme son camarade Sofiane Guitoun qui est blessé lui aussi regardera les matchs de ses partenaires depuis les tribunes d'Ernest Vallon et le prochain match c'est donc une demi-finale de Champions Cup face à l'UBB, les Bordelais touchés de plein fouet par le Covid qui n'ont plus joué depuis le 11 avril dernier et qui vont donc se présenter à Toulouse sans rythme et sans aucune certitude. Encore faut-il qu'ils soient autorisés à disputer ce match. Les conditions énoncées par le PCR sont assez draconiennes, hein.
Ouais, il faut savoir que l'organe européen, je dis pas le PCR parce qu'après on confond avec le test PCR, donc je veux dire l'organe européen a dévoilé un nouveau protocole fin mars pour les phases finales. Il faut maintenant 2 tests PCR dans la semaine et le dernier au plus tôt 3 jours avant le match. Donc, et d'ailleurs je vais vous rajouter quelque chose parce que à Toulouse et à Bordeaux cette semaine, lundi il y a des tests, mercredi il y a des tests, donc c'est à 3 jours au milieu du match, et Bordeaux aura le droit à des tests vendredi également. Ça c'est nouveau, c'est spécial pour Bordeaux puisque en ce moment il y a évidemment une épidémie qui traîne dans le vestiaire. Il y a en plus des recommandations de prudence messieurs autour des entraînements, mais ensuite au niveau du déplacement des équipes, leur comportement à l'hôtel, il y a aussi des consignes les jours de match, ne rigolez pas, mais bon, il y a les membres qui jouent, des équipes qui jouent pas, qui doivent pas être là, mais les célébrations d'essai sont interdites, a dit le PCR, comme les rassemblements dans le vestiaire après la rencontre. Faut pas trop voilà, se congratuler. Ouais, faut faire attention.
Chacun son tour pour les douches, par exemple.
Voilà. Enfin, en cas de cas positif, hein, ou plusieurs cas positifs, la commission d'évaluation des risques médicaux se réunira au plus vite et déterminera la tenue ou non du match. Le club incriminé sera, le cas échéant, éliminé. C'est ce qui est arrivé à Toulon, qui n'a pas pu jouer son match au Leinster. S'il y a des cas dans les deux clubs, il faudra quand même prendre une décision. Et là, je ne sais pas comment ils feront, parce qu'à 3 semaines de la finale, avec du top 14 entre-temps, il n'y a plus de place pour rejouer ces demi-finales.
En fait, le point essentiel pour le PCR, c'est la traçabilité, le tracing. C'est savoir comment les joueurs, avec qui ils ont passé du temps, comment ils se sont entraînés, possibilité de filmer les entraînements, concrètement avec qui ils étaient sans masque. Et c'est aussi pour ça que Toulon a eu des problèmes avec le PCR, c'est ce qu'on nous avait confirmé. C'est-à-dire que Toulon a mis du temps à montrer que les joueurs contaminés avec qui ils étaient, est-ce qu'ils avaient vraiment respecté tout le protocole, est-ce qu'il y avait d'autres cas contact. Et s'il n'y a pas cette traçabilité noir sur blanc, et là, ils vont avoir des problèmes, possiblement l'Union Bordeaux-Bègles. On espère qu'il n'y aura pas de cas de Covid en plus. Et Wilfried le disait, peut-être qu'il va falloir attendre le vendredi, ou pourquoi pas même le jour du match, pour être certain qu'ils vont jouer. En fait, c'est horrible.
Situation qui désespère Laurent Marty, on va l'entendre, le président de l'UBB, qui était l'invité de l'Intégral Sport sur RMC ce week-end.
On sortira de 3 semaines sans match, et de 3 semaines sans entraînement collectif. Ça nous inquiète énormément. Et le pire, c'est que dans la foulée de cette demi-finale, nous aurons 3 matchs à jouer en une semaine. Puisqu'on devra aussi rejouer le match d'Agen en semaine, qui avait été reporté le week-end dernier. Donc on va faire Toulouse, Bayonne, Agen-Castres, et en sortant d'une période de 3 semaines sans jouer, sans entraînement, le risque de blessure donc de ce fait sur la reprise, on l'espère au moins, de la compétition à Toulouse. Enfin, c'est un scénario catastrophe pour l'UBB.
Voilà, scénario catastrophe. Ouais, catastrophe. Ouais, on n'imagine pas comment l'UBB pourrait s'en sortir déjà dans cette demi-finale à Toulouse face au Stade Toulousain, Denis. Est-ce que ben, tu leur donnes malgré tout une chance
de parier, ouais.
Toi qui es un grand chance, on ne sait jamais, rien n'est impossible. Mais
match nul à la mi-temps.
La problématique, c'est pas tellement la motivation. Ils vont être très motivés, vouloir. Mais ça suffit pas. Le problème, c'est le physique, le coffre, le rythme. Et là, ils vont peut-être exploser parce que le problème, c'est qu'à l'inverse, Toulouse ils jouent, ils sont en forme et donc j'ai du mal à avoir une issue favorable. Franchement, il le dit, Laurent Marty, c'est une catastrophe et ça l'est réellement pour eux.
Mm-hmm. Messieurs, votre avis sur cette première demi-finale? Finale, les Toulousains ne vont faire qu'une bouchée des Bordelais.
Je laisse pas aller au bout du fait, il va être très objectif.
Oui. Non, mais c'est compliqué. Ils n'ont pas joué depuis le Racing, mais ils sont entraînés comment surtout ? Par petits groupes, le physique, ils n'en ont pas fait. Ça, c'est les cas sont multipliés. Dans la tête, ils sont comment ? Depuis 3 semaines, ils devaient jouer contre Montpellier et ça devait être un marchepied vers cette demi-finale. Un petit marchepied parce que c'est un seul match. Et la veille, alors qu'ils allaient s'entraîner, on leur dit, oula, il y a un cas. Enfin, ils le voient, oui. Il y a un cas symptomatique en plus. Donc, avec qui ce cas symptomatique
le 8e, hein.
ça peut repartir en plus. Donc c'est mentalement, je sais pas comment l'UBB peut faire pour aborder le match.
Mais après, en plus, si on est honnête, même dans un contexte où tout allait bien, Toulouse aurait été favori de ce match quand même. Ouais. Donc c'est vrai que ça s'ajoute à ça, ça creuse un peu l'écart. Voilà, il y a pas de.
C'est dommage.
C'est dommage. C'est dommage. L'affiche, quoi. Ça gâche un peu le spectacle parce que bon, Toulouse favori, ça ne veut pas dire qu'ils auraient gagné. Les Bordelais ont quand même d'immenses qualités et des joueurs qui sont capables de faire basculer des matchs. Mais c'est vrai que dans un contexte normal, les Toulousains semblent quand même au-dessus des autres clubs français actuellement. Donc forcément ça continue de creuser l'écart quoi. Donc on a du mal à voir comment ils vont s'en sortir les Bordelais.
La demi-finale entre le Stade Toulousain et l'UBB dont le coup d'envoi serait donc donné à 16h samedi prochain.
La mauvaise nouvelle c'est que le petit Dupont est très en mauvaise forme.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas terrible en ce moment.
Antoine,
là, de côté, Jalibert, il n'est pas mauvais non plus. Mais enfin,
faut dire à Simon Zebo de ne pas aller le percuter frontalement.
Ouais. C'est pas la pire chose qu'il a fait.
Sinon, il perd le ballon. C'est incroyable. Je me suis dit, où est le ballon ? Zebo, il avait le ballon, il est où ? Ah bah, il était déjà parti avec le goûter. Antoine Dupont. Et il marque derrière, deux temps de jeu, et il marque derrière un essai.
Voilà pour cette première demi-finale. Donc 16h samedi prochain, 1er mai, jour de travail. Ça tombe bien, on sera tous sur le pont. Le lendemain, rebelote avec l'immense défi qui attend La Rochelle avec la réception de la province irlandaise. Je un tout petit mot sur ce match. Je vais demander la parole au Rochelais, évidemment, qui y croit fermement, Wilfried.
Ouais, ça va être très dur pour les Rochelais parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de ce niveau-là. Ils ont été en finale de Challenge Cup, mais c'est la première demi-finale de Champions Cup. Et le Leinster a une telle expérience, 4 victoires et puis une machine. Maintenant, s'il y a une équipe qui peut faire dérailler cette machine, c'est peut-être La Rochelle. Je ne sais pas ce que vous pensez. Et moi, la forme de La Rochelle cette année...
S'il y a Toulouse-La Rochelle en finale, comment tu fais ?
Mais je suis journaliste, j'ai une carte de presse. Je mets ça de côté
ça,
et je commente
fois,
le match.
Il l'oublie quand il commente.
Mais non, mais après vous m'emmerdez avec ça. Après je me fais tancer par les gens.
Tu préfères qu'on...
On est tous supporters d'une équipe, messieurs. Denis, Christophe, t'es niçois, voilà. Mais vous savez... Enfin, Christophe, non, à l'antenne, il s'en cache pas.
Non, je m'en cache pas. Exemplaire.
Vous savez mettre ça de côté.
Moi, je pense que ça sera très très dur pour les Rochelais, mais sur ce qu'on a vu, en tout cas, des cartes de finale, ça va être compliqué parce que cette équipe du Leinster, elle est monstrueuse, quoi. Elle est en confiance, t'as l'impression que rien ne l'arrête, quoi. Enfin,
on a des nouvelles de Sexton d'ailleurs.
Ouais, il se repose.
Mais tu sais quoi, il vaut mieux qu'il joue pas. Parce que, pour La Rochelle, parce que je trouve que son remplaçant est meilleur que lui.
Le petit Burn est excellent. Ouais.
Ah oui, il est bien meilleur. Donc il vaut mieux que Sexton soit là.
Il réfléchit plus vite aussi.
Mais il y a un paramètre aussi pour les Rochelais, alors, qui est injuste, mais c'est la faute à personne. C'est que effectivement ils sont pas favoris de ce match quand même assez clairement, même s'ils ont ils auront des arguments. Et ce qui aurait pu combler l'écart, c'est aussi De Flandre, qui est quand même un stade où il y a une ambiance très particulière, qui pousse, qui peut renverser.
Quel dommage.
Et qui sera vide. Et c'est vrai que pour une telle affiche, peut-être le plus grand match de l'histoire du club, de le faire dans un De Flandre vide, c'est un peu terrible. Quoi. Ouais. L'ambiance aurait été incroyable.
Voilà, ça aurait été un match de dingue. On n'oublie pas non plus Montpellier qui disputera sa demi-finale de Challenge européen face aux Anglais de Bast samedi à 21h. Avant de nous séparer, un petit côté fermé, tiens.
RMC, entre les poteaux. Côté fermé.
On va commencer par les infos de l'excellentissime Jeff Paturo qui a mis le feu au Stade français.
Combien je te dois ?
D'ailleurs, t'as pris quelques réponses à tes infos. Hein. Tu te fais,
non,
te fais tenser, toi aussi.
Non, mais tout va bien. Tout va bien. Bon.
Alors, on a appris donc les départs de Ficou, de Danti et désormais donc de Matera. Oui. C'est la grande braderie au Stade français.
Hein. Oui, puisqu'on vous le révélait dès vendredi, Pablo Matera, qui était sous contrat pour encore un an, va faire ses valises cet été, le troisième ligne argentin, 27 ans, 69 sélections, lui qui était capitaine de l'Argentine à la Coupe du Monde 2019, va partir. La piste privilégiée, c'est pour rejoindre le Super Rugby. Ça fait un départ de plus, tu l'as dit. Et c'est vrai qu'on s'interroge un petit peu sur l'avenir du Stade français. Pour le moment, il n'y a aucune officialisation de recrutement pour la saison prochaine. Ce qu'on peut vous dire, on en avait parlé ici même, c'est qu'il y a un joueur, notamment Clément Castette, le pilier du Stade toulousain, qui va arriver. Pour le reste, il y a peu de bonnes nouvelles pour l'instant officielles, si ce n'est Marcos Kremer qui a annoncé dans les colonnes du Midi Olympique il n'y a pas si longtemps qu'il prolongeait l'aventure. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a un vrai tournant pour le Stade français qui veut réduire sa masse salariale, et les supporters du Stade français s'impatientent et s'inquiètent.
Oui, et je pense que le président Hull a décidé de plus donner des chèques en blanc. Hein,
et c'est surtout qu'il faut respecter le salary cap et la masse salariale, en fait, ouais. Parce que si c'est seulement l'argent de Hans-Peter Hull, il pourra donner beaucoup plus.
Mm-hmm. Denis, comment tu interprètes tout ça ? Est-ce que ça t'inquiète pour l'avenir du Stade français ?
Ça m'inquiète de voir partir des Danti et Ficou qui sont quand même des locomotives et des joueurs d'expérience et surtout des joueurs qui amènent une certaine image. Ça m'ennuie. Puis voilà, il y a beaucoup d'étrangers au Stade français aujourd'hui, il y en a beaucoup trop à mon goût, mais bon, ça c'est... On va pas y échanger. Je trouve qu'il manque de joueurs français, de la formation. Mais la politique du Stade français, elle est claire aujourd'hui. Voilà, ils dégraissent pour prendre plus de joueurs. Et même s'ils sont moins reconnus et moins connus, voilà. Donc, ils ont affiché leurs intentions. Après,
ils veulent des joueurs disponibles.
C'est pas une critique en soi. Ils veulent des joueurs disponibles. C'est un choix politique, en fait.
Il n'y a aucune conséquence, messieurs, sur un avant et un après la révélation sur ces tweets d'il y a très longtemps. Ça avait fait grincer le vestiaire.
Ça avait fait grincer les dents dans le vestiaire à un moment.
Est-ce qu'il y a une conséquence, un lien avec ça ou pas du tout ?
Bah, c'est surtout que sur le terrain, il a été un petit peu décevant aussi, Pablo Matera, par rapport au statut qu'il a. Et c'est vrai que les tweets xénophobes et racistes qui avaient été ressortis il n'y a pas si longtemps par la presse argentine n'ont pas franchement arrangé l'ambiance dans le vestiaire à un moment, oui.
Mais surtout, tu l'as pas jusqu'en décembre. Donc,
ouais,
si tu veux,
c'est
quand même un choix.
Alors,
tu gardes Kremer, mais tu te sépares de Matera qui ne sera pas là jusqu'en décembre. Ouais. Donc, encore une fois, c'est...
Après, quand on est gestionnaire d'une entreprise, le rugby est une entreprise, quand on est gestionnaire, c'est pas illogique de se dire nos plus gros salaires, on les a que la moitié du temps. C'est quand même un calcul un peu particulier. Alors certes, par contre, dans les grands matchs décisifs de fin de saison, il vaut mieux les avoir avec soi.
Mais bon, quand tu joues
pas
les
matchs, faut les jouer les grands matchs.
Un petit mot de cette belle interview dans Midi Olympique aujourd'hui, Léo, de Joshua Tuusova, qui a encore été énorme ce week-end, et qui se fait assez rare quand même dans les médias. Une interview très sympa de ce joueur qui disait qu'il aurait pu être fermier à la place de rugbyman.
Ouais, bon après, généralement les Fidjiens sont assez rares et assez timides.
Oui,
et...
c'est vrai.
Et c'est pas les meilleurs clients, on va dire, pour les médias. C'est un garçon attachant, ouais, alors qui a accepté de jouer le jeu là, et avec dans un contexte particulier. Il est accompagné de l'entraîneur des trois quarts pour la traduction aussi. Il était en confiance. Mais c'est un garçon attachant, effectivement, qui raconte un peu son enfance, son parcours. Et puis c'est un phénomène physique. Mais quand on lui
c'est boule de flipper.
C'est incroyable. Hein. Non mais c'est incroyable.
Hein, bam, boum, boum, tilt. Ça fait tilt à la fin.
Et en fait, il est tellement fort et impressionnant, c'est que aujourd'hui peu de joueurs tente de le plaquer, c'est-à-dire qu'il a même plus à exploser les mecs.
C'est comme Lomu à l'époque, hein. c'est un peu le même phénomène.
Tu as raison.
On en voit tous les week-ends.
Est-ce que ça sert à quelque chose ? Comment faut faire ?
Tu plaques au pied, mais bon.
C'est sûr que si tu essayes
pas, il y a
pas de
chance d'y arriver. Clairement, en haut, il l'a pris en haut. Donc là, il vous met dans les gradins, direct sur le siège pour regarder le match.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté.
Il y a des photos en plus. Il y a des photos de Tuusova où sur les cuisses ou les mollets, on dirait qu'il a un fer à repasser dans le mollet. Quoi. Il y a des boules de muscles, c'est incroyable.
Sept défenseurs quand même.
Vous rappelez qu'on a beaucoup parlé de Gaël Ficou qui était sous contrat qui part au Racing. Tuusova, il était sous contrat à Toulon, il était parti à Lyon aussi.
Ouais. Tout à fait, il avait rejoint Pierre Mignoni. Ouais. Mais pour vous raconter l'anecdote, je l'avais fait il y a quelques années, quand il rentrait des Jeux Olympiques, où ils avaient été champions olympiques, les Fidjiens, on les avait vus à Toulon. Et en rentrant, c'est vrai qu'on bosse dans un milieu où des êtres humains hors normes, on va dire, on en croise quand même souvent physiquement.
Il s'appelle Denis.
Ouais. Évidemment. Des gens qui sont pas faits comme les autres, c'est un peu notre quotidien. Lui, ça fait une sensation, il était en débardeur de NBA, en plus en maillot de NBA. Il est deux fois comme les autres, c'est incroyable.
Ouais.
Ouais, puis toi, t'es une serpe, toi, donc en plus, c'est... Non, le contrat, c'était saisissant. Je t'imaginais en Marcel, Léo. Donc, avec ton teint un peu clair, avec ton teint un peu clair à côté
aussi, vous avez tous des physiques extraordinaires, messieurs, Léo. Les postos.
On l'embrasse, Léo.
Merci, messieurs.
Si je t'attrape, quand même, je te mange. Voilà.
Envoie-lui, tu sauvages. Je pense que le petit Rochelet va m'emmener. Merci, les garçons. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux. En espérant voir des matchs ce week-end. Ciao, ciao.